Partie 2. La saison d'absence.
Entre le fromager et la rivière de Gros Galet, les hommes se réveillaient toujours avant le lever du soleil. Mais la lune étant pleine, tout le monde savait que le jour, la mer serait remuée, repoussant au large les poissons qui préfèrent alors le calme des profondeurs. C'est pourquoi il faisait encore nuit quand Cotta alla rejoindre les autres pêcheurs. Leurs silhouettes se dressaient comme une suite d'arbres pétrifiés le long du rivage. De l'eau jusqu'à mi-jambe, ils guettaient le moindre frémissement de la mer. De temps en temps, l'un d'entre eux s'avançait et faisait voler son filet qu'il retirait avec méthode. On y voyait alors frétiller des reflets d'argent. Tant que la lune serait pleine, les pêcheurs savaient que les pirogues devaient rester à l'ancre. Et eux qui ne pouvaient prendre la mer se contentaient de ce qu'offrait sa lisière. Si la terre les retenait, c'est que la pleine lune rend fécond. C'est le temps propice pour qui veut ensemencer. La divinité des eaux dit alors que l'homme, en mettant ailleurs son espoir, ignore qu'elle seule sait véritablement combler. De jalousie, elle fait se lever le vent, agite violemment la mer et se fait cruelle pour l'infidèle qui vient à elle après avoir mêlé sa sueur à celle d'une mortelle. Qui, dans ce village entre fromager et rivière de Gros Galet, était tenu, plus qu'un autre, à ne pas prendre la mer? Qui, plus qu'un autre, devait ensemencer, sinon Cotta, dont le ventre de l'épouse n'avait porté fruit qu'une seule fois? Nindia se savait la rivale de la divinité des eaux. C'est la raison pour laquelle elle était aussi debout de si grand matin. Accroupie devant le seau d'eau dans lequel baignaient les tiges et les feuilles d'amome, elle se lavait. Ses deux mains en creux recueillaient le liquide consacré qu'elle jetait sur son corps. Puis, à l'aide des feuilles, elle se frottait méticuleusement en s'attardant sur les seins, les cuisses, le pubis et le ventre. N'est-ce pas que la nuit, Cotta avait pétri ce corps avec tant de soin et de patience qu'il l'avait senti s'amollir, devenant tout entier offrande. Ainsi prêt, Cotta l'avait exploré. Il avait cherché longtemps, avec ardeur, dans sa tiédeur moite, comme s'il voulait que ce corps lui dise où. Et Nindia avait senti en elle un arrachement. Sa respiration s'était faite désordre. Il fallait qu'elle s'agrippe. Ce fut donc avec la force de qui se noie qu'elle jeta les bras autour de Cotta. Elle se souvenait de leur gémissement. Mais, à l'instant où elle se lavait, elle ne pouvait dire si ce fut d'abord de plaisir ou d'espoir qu'elle avait gémi. Son bain terminé, Nindia alla allumer le feu et mettre à chauffer l'eau pour Rediwa. La nuit était maintenant tout à fait vaincue, laissant place à une lumière sans éclat. C'est alors que Nindia s'étonna. Contrairement à son habitude, Rediwa n'était pas encore levé. Il dormait à côté d'Anka. Plus Nindia le regardait, plus elle s'étonnait. L'aïeul avait les yeux fixes. Sa bouche était un trou béant sur un visage de cendre. Alors Nindia s'approcha, à plat tête, lui toucha le front, puis retira aussitôt la main en poussant un cri d'effroi. Avec des mouvements de panique, elle arracha Anka de la couche, le serra contre elle tout en poussant des hurlements. D'un bout à l'autre du village, ce qu'il y avait d'habitants s'était rassemblé. Les hommes s'enfermèrent avec le mort dans la case en terre battue, tandis que les femmes, assises à même le sol, défaisaient leurs cheveux, les yeux rivés sur la porte close, figés dans l'attente. « Pas une larme !» recommanda fermement une vieille. « Tant que Rediwa est entre les mains de ceux qui le lavent, pas une larme, je vous dis !» Les femmes hochèrent gravement la tête. Certaines se tapaient doucement la poitrine, comme si ce geste tassait un peu de la douleur qui autrement déborderait. Quand elles virent la porte s'entr'ouvrir et les hommes sortir l'un après l'autre, elles se ruèrent dans la case en terre battue, laissant libre cours à cette clameur qui mit longtemps à s'apaiser, pour ne devenir qu'une mélopée ponctuée de soupirs. Les pleureuses chantaient, et leurs accents obligèrent quelques hommes à s'essuyer les yeux. Anka, debout dans la cour auprès de son père, se demanda ce que pouvait signifier ce chant à nul autre pareil, ce chant qui brossait une vie semblable à celle de son aïeul. Anka connaissait tant et tant de chants, ceux du soir à côté de l'âtre qui se confondent aux caresses et vous bercent jusqu'au sommeil, ceux du travail qui épousent le geste, ceux que les enfants ne doivent pas chanter parce qu'ils sentent la résine brûlée et font gicler la transe, ceux des courses de pirogues, des veilles de pêche au lamantin, de la pluie qui ne vient pas, de la récolte abondante, ceux qu'on chante pour rien, pour moquer, pour se faire plaisir, pour dire qu'on est heureux. Oui, il en connaissait des chants, mais celui-ci ne lui était pas familier. C'était un sanglot qui montait, s'étirait, retombait, cueilli par les soupirs, puis repartait. Le sanglot disait que Tat n'était plus, qu'il était mort la nuit dernière, lui, si bon, si généreux. Il disait que Tat était vieux, mais qui aurait pensé que la mort viendrait si tôt, sans prévenir? Et le sanglot s'insurgeait, accusait, on ne savait trop qui, mais accusait quand même. Car Tat, en vérité, n'était pas mort de sa belle mort. Comment en douter, quand bien des signes troublants jonchaient depuis quelque temps le village? Assurément, il y avait des gens qui en voulaient à ceux qui habitaient entre le Grand Fromager et la rivière de Gros Galet. Pour qu'une case s'effondre, quoi de mieux que de s'attaquer aux poutres qui la soutiennent? Malheur à celui qui ne comprend pas. Mais ce vieillard était une poutre qui soutenait. Et le sanglot s'enflait jusqu'à ne plus pouvoir. Il suppliait Reddy Waugh de se relever. Et puisque Reddy Waugh restait sourd à cette supplique, on lui demanda seulement de porter aux ancêtres qui l'avaient précédé les nouvelles d'ici. Que Reddy Waugh n'oublie surtout pas de leur dire qu'elles étaient mauvaises. Et le réconfort bien mince. L'enfant, lui, n'avait pas de message. Il était muet. C'est qu'il ne voyait pas de raison de s'alarmer. Pourtant, il n'ignorait pas tout à fait. Tat lui avait si souvent parlé de ce grand départ. Il lui avait dit qu'il n'allait pas tarder à rejoindre ses ancêtres. Mais aller rejoindre les ancêtres, était-ce vraiment partir? Et les gouttes de rhum qu'on versait certains soirs sur le seuil de la porte? Et les mets sacrés qu'on apportait une fois l'an du côté où la rivière de Gros Galet s'enfonçait dans le secret de la forêt? N'était-ce pas la preuve que les ancêtres étaient présents? Mais par-dessus tout, Anka était persuadée que Tat ne pouvait songer à partir sans lui avoir donné ses yeux. C'était une promesse. Il ne pouvait partir sans l'avoir tenue. Mais plus le temps passait, plus s'installait le doute. Tat savait-il seulement qu'il n'avait pas encore dit? Et si c'était persuadé d'avoir tenu sa promesse, que Tat s'en allait? La mort, soudain, cessa d'être cet événement banal, dont le seul inconvénient jusque-là fut de réveiller Anka en sursaut. Elle se rectifiait, devenait d'heure en heure l'insupportable silence face aux appels d'Anka. « Tes yeux, Tat, donne-moi tes yeux qui voient. Tu ne peux ignorer que j'ai dormi. » Anka s'arc-bouta sur la bonté de Reddy Waugh jusqu'à s'irriter des pleurs de toutes ces femmes et à imaginer leur mine quand elles finiraient par se rendre compte que Tat faisait juste semblant d'être parti. C'est ainsi qu'on présenta Anka à l'aïeul pour la dernière fois. C'est ainsi que son père, qui le conduisait, demanda à Reddy Waugh de protéger l'enfant de là où il était. Même là, devant l'aïeul qui dormait de tout son long, dans l'indifférence, comme installée dans une sorte de rancune qui donnait à son visage, aux yeux légèrement clos, cette expression un peu hautaine, Anka restait confiant. À l'heure où le soleil magnifie l'horizon de pourpre avant de s'enfoncer dans la mer, l'enfant vit revenir ceux qui avaient fait escorte à son aïeul assoupi. Chacun rentrait à reculons dans la cour, se lavait le visage d'eau salée avant de l'enduire de cendres. pour la première fois depuis ce matin. Anka se rendit alors à l'évidence. Tat était mort, sans lui donner ses yeux. La poitrine de l'enfant se gonfla d'un sanglot qui n'éclatait pas et entravait sa respiration. Quelque chose d'étrange, de chaud puis de froid, le traversa tout entier. De sentir tant de vide soudain, comme si sous lui tout se dérobait, le vertige le prit. Il ploya doucement les genoux, serra les dents et se coucha par terre.